Éric Bataillon.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, avec la rédaction, nous allons revenir sur 7 jours d'information. Un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, notre invité est un professeur à l'ILERA, l'École de Relations Internationales à Paris, spécialiste de géopolitique et d'histoire contemporaine, auteur de plusieurs ouvrages, dont le récent de Charlie Hebdo à hashtag Charlie, sorti en 2015, peu après l'attentat contre l'hebdomadaire satirique à Paris. Bonjour David Vauclair.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous publiez également chez Erol, Judaïsme, Christianisme, Islam, avec ce sous-titre « Points communs et divergences ». Y a-t-il, selon vous, nécessité aujourd'hui de faire le point sur ce qui caractérise ces trois religions majeures dans le monde et même majoritaires, même si elles ne le sont pas les seules, loin s'en faut ?
Eh bien oui, tout à fait. Il me semble important de revenir sur ce qui nous permet de vivre ensemble depuis si longtemps et puis en même temps, ce qui nous permet de nous différencier par nos croyances diverses, puisque nous allons avoir des rites variés, des possibilités de comprendre, de voir, de vivre, qui sont différentes. Et c'est intéressant de savoir comment est-ce que les autres font et comment est-ce que nous-mêmes, d'ailleurs, faisons aussi, puisque souvent, en France, l'enseignement religieux a un peu disparu et les gens ne savent plus très très bien ce que ça signifie d'être de la religion dont ils sont issus initialement.
Alors, votre livre est divisé en 4 parties, les rites, bien entendu, mais aussi les rapports avec la sphère privée, ceux avec la sphère publique, et aussi on verra les questions d'actualité, notamment sur le terrorisme. Mais qu'est-ce qui vous paraît le plus rapprochant dans ces trois religions ?
Eh bien, peut-être la volonté que l'on peut avoir au niveau de l'histoire de ces trois religions à essayer justement de faire vivre la communauté dans une harmonie qui soit la plus grande possible. Et de voir que des accommodements se font siècle après siècle ou décennie après décennie avec à la fois le pouvoir politique mais également ceux et celles qui ne sont pas de la religion majoritaire. Et donc là-dessus, particulièrement aujourd'hui, dans un siècle de mondialisation, il est important de voir qu'on trouvera à l'intérieur des religions cette capacité à vivre en harmonie.
Sept jours dans le monde. Nous nous intéressons maintenant à l'actualité internationale. Alors, bien qu'elle ait prévenu dès lundi qu'elle continuerait de frapper les combattants kurdes dans le nord de la Syrie tant qu'ils n'auraient pas reculé à l'est de l'Euphrate, la Turquie a finalement répondu aux injonctions de Washington qui avait jugé ces affrontements inacceptables. L'armée turque, avec des forces au sol, des blindés et un appui aérien, reste engagée dans l'opération bouclier de l'Euphrate, visant non seulement les djihadistes de l'organisation État islamique en Syrie, mais aussi les combattants kurdes, pourtant épaulés par Washington. Et l'offensive du week-end dernier marque sans doute un tournant pour les forces d'Ankara. Alexandre Billette, à Istanbul.
Avec les premiers civils tués par les bombardements et le premier militaire turc tué au combat ce week-end, de l'opération des forces turques entre dans une nouvelle phase. La prise de Jarablus aux mains de Daesh s'est déroulée sans problème, mais désormais l'offensive se concentre au sud, dans les villages contrôlés par les forces à majorité kurdes qui sont aux yeux d'Ankara des terroristes, à l'instar de Daesh. Lorsque l'opération bouclier de l'Euphrate a été lancée mercredi, le premier ministre Binali Yildirim avait évoqué une offensive rapide. Cependant, la résistance des forces kurdes depuis 72 heures semble plus importante que prévu, avec plusieurs conséquences potentielles. Une opération peut être plus longue, peut-être également plus de victimes que prévu côté turc, sans compter les conséquences à l'intérieur même du pays. Déjà, le PKK a multiplié les attaques ces derniers jours et pourrait passer à la vitesse supérieure en guise de rétorsion.
À noter que l'État islamique a annoncé la mort de son porte-parole, Abu Mohamed al-Adnani, celui-là même qui avait appelé chaque musulman, où que ce soit dans le monde, à agir dans son propre pays. Israël et les ONG, les organisations non gouvernementales, s'inquiètent du procès intenté par la justice israélienne contre un dirigeant de World Vision, une organisation humanitaire œuvrant à Gaza. Après 50 jours de détention arbitraire, le directeur de World Vision aurait avoué avoir détourné des millions de dollars au profit du Hamas. Son avocat fait pourtant état d'aveu sous la torture. Nicolas Repère à Jérusalem.
Mohamed Alabi est apparu en uniforme de prisonnier lors de l'ouverture de son procès qui s'est tenu à huis clos ce mardi. Le directeur de World Vision à Gaza est, selon l'une de ses avocates, revenu sur les aveux qu'il avait faits devant les services de sécurité israéliens.
Je peux simplement évoquer les charges qui ont été dévoilées. Mon client est accusé d'avoir transféré de manière directe ou indirecte de l'argent de World Vision pour les activités du Hamas. Il récuse complètement ces accusations. L'ONG le soutient et ils ont confirmé qu'il n'y était pour rien.
Cette affaire embarrasse le monde des ONG. Plusieurs responsables humanitaires suspectent Israël de vouloir faire le ménage au sein des organisations qui interviennent dans la bande de Gaza. Pour Emmanuel Narchon, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, il n'en est rien.
La personne en question, M. Halabi, aurait volé des millions de dollars à l'organisation World Vision. La personne en question a avoué, et ce sont des faits qui sont basés aussi sur des documents. Je crois que c'est vraiment un procès qui sera relativement simple et facile.
C'est la première fois qu'un responsable d'ONG opérant à Gaza est poursuivi par la justice israélienne. Un épisode supplémentaire dans la bataille que mène l'État hébreu contre le Hamas islamiste qui contrôle la bande de Gaza depuis bientôt 10 ans.
Et tandis que certains pays européens s'interrogent sur la manière d'autoriser la construction de mosquées, l'Égypte décide d'assouplir les règles issues de l'Empire ottoman concernant la construction d'églises chrétiennes. Le Parlement a ratifié la nouvelle loi cette semaine. Alexandre Bouchanti au Caire.
Vive l'union du croissant et de la croix, a lancé le président du Parlement après l'adoption de la loi. Une loi nécessitant la majorité des 2/3 selon la constitution de 2014. Toutefois, de nombreux députés chrétiens, mais aussi musulmans laïcs, se sont abstenus à cause de l'article 2, un article qui stipule que la construction d'une église et sa superficie devaient être liées au nombre de chrétiens dans la région. Dans un pays où le nombre de chrétiens est un secret d'État, alors que la religion est mentionnée sur la carte d'identité, c'est donner le dernier mot aux appareils sécuritaires. Des appareils qui considèrent souvent les nouvelles églises comme source potentielle de problèmes. Plusieurs émeutes contre des lieux de culte chrétiens ont eu lieu ces derniers mois à l'appel de chers salafistes. Les salafistes au Parlement n'ont pas voté la loi car ils sont tout simplement opposés à la construction d'églises en pays d'islam.
David Vauclair, cette loi en Égypte, on peut en penser quoi ?
Alors, en ce qui me concerne, j'en pense du bien. Mais oui, ça m'apparaît être une avancée, quelque chose de tout à fait positif, cette capacité qu'a l'Égypte de pouvoir réfléchir aux tensions qu'il y a de manière évidente entre sa population musulmane, et notamment sa frange salafiste, et puis ses populations chrétiennes. On se souvient à quel point les temps ont été durs dans les dernières années pour notamment les populations coptes en Égypte. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle et une avancée. Il faut espérer que les choses iront dans cette direction-là plutôt que l'opposé.
Cela dit, on entend bien qu'un certain nombre de fidèles, que ce soit les musulmans ou les chrétiens coptes, ne sont pas forcément tout à fait d'accord avec cette loi.
Oui, parce que tout simplement, derrière, il y a toujours une question politique, une question de relation de pouvoir, et puis le tout, c'est de savoir qui est-ce que ça sert. Et parallèlement, dans un pays où il y a des difficultés économiques et sociales majeures, c'est toujours intéressant d'avoir un bouc émissaire, et souvent, les chrétiens vont être utilisés comme bouc émissaire. Donc, essayer d'avoir cette forme, finalement, d'intégration peut entraîner des problèmes ensuite pour savoir qui est responsable de la situation difficile dans laquelle se trouve la majorité du peuple égyptien aujourd'hui.
Mais le fait que les autorités religieuses, que ce soit les coptes ou les musulmans, aient réussi à trouver un point d'accord, ça c'est plutôt positif.
C'est une chose effectivement très positive et c'est là où on ne peut qu'espérer qu'ils construiront là-dessus. Malheureusement, construire ce genre d'accord, ça prend toujours la plupart du temps une dizaine d'années, alors que le détruire prend la plupart du temps un illuminé qui va commettre un attentat. Et c'est ça qui est bien dommage. Donc, mon esprit, mon cœur, mes prières, si vous voulez, vont vers le peuple égyptien.
RFI. Moins de 2 semaines après la clôture des Jeux Olympiques de Rio, le Brésil est revenu à sa triste réalité, mêlant la pire récession économique depuis des décennies à une crise politique historique envenimée par les scandales de corruption. Alors, le procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff a touché à sa fin mardi, avec un ultime débat au Sénat suivi mercredi d'un vote historique qui éjecte la gauche du pouvoir dans le plus grand pays d'Amérique latine. Écoutez le reportage d'Hachim Lippold à Brasilia.
Votaram sim, 61 senadores.
61 voix pour et 20 contre. Le président de la Cour suprême, Ricardo Lewandowski, annonce le résultat du vote. Certains sénateurs commencent à chanter l'hymne national. D'autres élus brandissent le drapeau brésilien. Ils célèbrent la chute de Dilma Rousseff et du Parti des travailleurs au pouvoir depuis 13 ans. Le sénateur social-démocrate Aécio Neves.
Le Brésil aura une nouvelle chance. Ce qui restera dans les livres d'histoire, c'est une leçon pédagogique. Ceux qui assument un mandat public doivent se conformer à la loi. Et ce, dans toutes les circonstances et en respectant tous les détails.
Les sénateurs du PT sortent de l'hémicycle la mine grave. Fatima Becerra ne cache pas sa colère.
On ne va pas rester silencieuse. On va continuer à dénoncer un coup d'État et le caractère illégitime de ce gouvernement. On restera plus que jamais mobilisé pour combattre ce coup d'État. Son objectif est de réduire les droits sociaux sans avoir eu l'approbation électorale. Aujourd'hui est un jour de honte, d'infamie.
Seule consolation, Dilma Rousseff conserve le droit d'exercer des fonctions publiques. Son avocat a annoncé un recours devant la Cour suprême.
Une visite extrêmement délicate pour Donald Trump au Mexique. Sa rencontre avec le président mexicain Enrique Peña Nieto s'est déroulée sous tension mercredi. Et durant cette visite éclair, le candidat républicain à la Maison-Blanche a pourtant qualifié le mandataire mexicain d'ami. Une politesse que Peña Nieto ne lui a pas rendue après les nombreux propos anti-latinos du candidat républicain à la Maison-Blanche. Emmanuel Stills à Mexico.
Les Mexicains de deuxième et troisième génération aux États-Unis sont sans reproche. Ce sont des travailleurs spectaculaires.
Donald Trump a tenté d'amadouer des Mexicains remplis de ressentiment après ses innombrables attaques à leur égard. Le président Enrique Peña Nieto, son hôte du jour, s'est bien gardé de lui rappeler ses embardés, demandant simplement du respect pour ses compatriotes aux États-Unis.
Ce sont des gens honnêtes et travailleurs. Ce sont des personnes honorables qui respectent la loi. En tant que tels, les Mexicains méritent le respect de tous.
Le président mexicain a condamné le discours à sens unique du candidat milliardaire sur les migrants sans papiers et la drogue. Il y a aussi des flux d'armes et d'argent qui viennent des États-Unis et renforcent les cartels au Mexique, a-t-il dit. De la coopération plutôt que des séparations, c'est ce pourquoi Peña Nieto a plaidé auprès d'un homme qui pourtant ne détient aucun pouvoir. Trump, lui, a insisté sur son projet de mur entre les deux pays.
Nous reconnaissons le droit des deux pays de construire une barrière physique ou un mur sur sa frontière pour stopper le flux illégal de personnes, de drogue ou d'armes.
Aux questions des journalistes, Trump a répondu qu'il n'avait pas évoqué qui des deux voisins assumerait le financement de ce mur, qu'il a toujours promis de faire payer au Mexique. À l'issue de la rencontre, les Mexicains ont continué de se demander à quoi celle-ci avait bien pu servir.
David Vauclair, un mur tombe, un mur politique tombe avec Cuba, un autre pourrait se bâtir avec le Mexicain, on dirait que l'histoire bredouille.
Oui, enfin bon, en même temps, Monsieur Trump n'est pas encore élu, et si on en croit la sociologie électorale des États-Unis, ça va être très compliqué pour lui de réussir à se faire élire, d'autant plus que son dernier discours sur l'immigration a beaucoup séparé de la base qu'il avait un certain nombre de minorités dont il a besoin pour être élu. Donc là, la montagne à gravir apparaît vraiment très difficile pour lui. Cela étant dit, c'est vrai qu'on ne sait jamais ce que feront les électeurs et il faut espérer que s'il est élu, il n'appliquera pas son programme et s'il ne l'est pas, ma foi, que Mme Clinton sera capable de retisser des liens proches avec le Mexique et les Mexicains.
Alors le Brésil, vous disiez pendant que nous entendions le reportage qu'il y avait une possibilité qu'il y ait un vide qui se crée, notamment un vide politique qui serait comblé par la religion.
Oui, en règle générale, le retour du religieux est lié aux carences du politique. C'est-à-dire que quand l'État s'occupe de l'intégralité de vos besoins, les églises sont mises de côté et vont avoir une place qui est moindre à l'intérieur de votre communauté. Mais dès que l'État ne s'occupe plus de l'école, par exemple, donc du chômage, des hôpitaux, finalement de toutes les aides sociales qui font de votre vie une vie un peu moins difficile, eh bien vous vous retournez vers la personne qui va vous fournir ces services-là, et en règle générale, c'est l'Église. En plus du fait, bien évidemment, que les gens ont des besoins spirituels. Donc, À partir de là, quand on voit l'idée que la gauche a déçu au Brésil et qu'elle va être remplacée par la droite, on peut imaginer que dans un temps relativement restreint, il y a un certain nombre de coupes qui vont être faites. En règle générale, ces coupes vont être faites au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, ce qui va entraîner un mal-être. Et ce mal-être va être la plupart du temps comblé par un retour du religieux. Retour du religieux qu'on peut déjà voir dans les barrios, à la fois par ce que fait depuis très longtemps et traditionnellement l'Église catholique, mais, et ça c'est nouveau depuis maintenant une petite quinzaine d'années, les mouvements évangélistes chrétiens.
Parlons de chrétiens protestants, oui. En effet. Alors parlons de votre livre « Judaïsme, christianisme, islam, points communs et divergences ». Alors votre livre se structure en quatre parties. Dans la première, on y apprend que Abraham, c'est vraiment la figure tutélaire des trois religions.
Oui, c'est le grand patriarche, c'est celui vers lequel tous vont se retourner et vont estimés être les héritiers donc de cette grande figure. Alors après, chacun va comprendre le symbole qu'est Abraham de manière un peu différente, mais au cœur se trouve le même personnage.
Et pour quelle raison s'approprier celui-là plutôt qu'un autre ?
Eh bien parce que c'est celui qui, après Adam, va véritablement réitérer l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le grand monothéiste, si vous voulez, puisque dans un monde polythéiste, un monde qui a oublié l'unicité de Dieu depuis le déluge de Noé, si on en croit les textes, eh bien, c'est lui qui va revenir et puis imposer, si vous voulez, à la fois à sa famille, à sa tribu, à son ethnie, et puis ensuite également aux régions dans lesquelles il traversera, l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, c'est cette idée-là qui va être revendiquée par tous de manière différente, du côté des Juifs comme donc le père de tous les Hébreux, du côté des chrétiens comme donc un prédécesseur et un autre Jésus si on veut, et puis du côté des musulmans comme celui qui sera le fondateur véritablement de l'islam.
Les religions et la sphère privée, c'est la deuxième partie de votre livre. Quelle position ont-elles notamment par rapport à la femme ou par rapport à la famille ?
Eh bien, elles perçoivent la famille comme l'élément fondamental de toute société, de toute communauté. C'est l'élément le plus important, celui autour duquel vont se créer l'ensemble, le reste des relations sociales. Et puis, à l'intérieur de cette famille, il y a une hiérarchie qui est très nette, avec l'homme qui dirige et la femme qui lui est soumise. Et c'est vrai que même si dans les textes, on peut voir une égalité entre hommes et femmes, on peut tout à fait l'interpréter comme telle selon la création divine, le fait est qu'après, la tradition et l'histoire vont donner une place inférieure à la femme, place dont elle aura bien du mal à se débarrasser, à se débattre jusqu'aux causes féministes des 50 dernières années.
Donc lorsque la femme est présentée comme l'égale ou la partenaire de l'homme, c'est surtout une question culturelle plus que religieuse, puisque les religions ont tendance à la mettre dans une position subalterne.
Bien, c'est les deux, puisqu'on va trouver dans les textes, des versets qui vont permettre de la considérer à la fois comme une inférieure ou comme une égale. Et ça dépendra du verset, si vous voulez, que vous mettez en avant. Après, dans l'esprit de la religion, c'est compliqué de pouvoir vous donner une réponse, d'une part, parce que là, je suis en train de parler de plusieurs religions à la fois, donc c'est difficile. Mais cela étant dit, si vous regardez, vous pouvez remarquer que au niveau de l'esprit des textes, on peut tout à fait construire, disons, un féminisme religieux qui permettrait à la femme d'avoir une place équivalente, paritaire par rapport à celle de l'homme. Mais l'histoire, et une très longue histoire, et une multitude d'interprétations contraires font que, bien, en règle générale, quand on regarde les systèmes religieux que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, on peut voir qu'ils sont par définition patriarcaux.
Et le sexe ?
Le sexe est vu positivement dans le judaïsme et dans l'islam, bien moins dans le christianisme. Donc à partir de là, il est considéré comme une malheureuse obligation dans le christianisme et comme une heureuse nécessité, un heureux besoin dans les deux autres religions.
David Vauclair, nous marquons une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
L'atelier. Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Nous sommes en compagnie de David Vauclair, professeur et spécialiste de géopolitique et d'histoire contemporaine, auteur de ce livre publié chez Erol, « Judaïsme, christianisme, islam, points communs et divergences », un ouvrage dans lequel David Vauclair vous montrait que les trois religions dites du livre cohabitent et s'opposent depuis des siècles dans une relative méconnaissance mutuelle. Comment est-ce possible ?
Eh bien, parce que tout simplement, chacun va avoir tendance à regarder midi à sa porte et donc va considérer que la manière qu'il a de considérer le monde et de comprendre les textes est celle de son voisin. Et donc la plupart du temps, les cultures majoritaires vont estimer que les religions minoritaires comprendront le monde de la même manière qu'elles, ce qui n'est évidemment pas le cas.
D'autant que, à l'intérieur de chacune des religions, il existe également des incompréhensions, voire une méconnaissance totale à l'égard de certaines tendances de cette religion.
Oui, tout à fait. Même parfois, il peut y avoir des rejets assez profonds entre différentes églises. Prenons un exemple historique qui nous sera familier à tous, les guerres de religion en France entre protestants et catholiques. Bon, donc correspondent bien à cela.
Oui, ou encore le chiisme et le sunnisme
bien
au Moyen-Orient.
Oui, oui.
Sept jours en France.
Alors nous reparlerons bien évidemment plus longuement de votre livre, David Vauclair, mais arrêtons-nous, si vous le voulez bien, quelques instants sur l'actualité en France, avec cette semaine la démission d'un ministre important du gouvernement socialiste, celui de l'économie. Emmanuel Macron souhaite faire de la politique autrement.
La gauche et la droite, telles qu'elles structurent aujourd'hui la vie politique française, sont caduques. Ma volonté, de manière claire, c'est de proposer à toutes et tous les progressistes de travailler ensemble.
En tout cas, ce départ est un coup dur pour le président François Hollande, comme nous l'explique Valérie Gasse.
La démission d'Emmanuel Macron, c'est évidemment un mauvais signe politique. Elle marque un nouveau rétrécissement du gouvernement de François Hollande. Après le départ de Christiane Taubira, icône de l'aile gauche, c'est Macron, symbole de l'aile droite, qui fait défection. Et puis c'est le chouchou des sondages qui s'en va et le quatrième ancien ministre après Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Cécile Duflot qui se place en position d'être candidat en 2017. C'est aussi un camouflet personnel et politique pour François Hollande qui était le mentor d'Emmanuel Macron, sans compter le fait que ça donne à la droite une nouvelle occasion de le manque d'autorité de François Hollande. Le chef de l'État avait plusieurs fois rappelé à l'ordre son ambitieux ministre de l'économie, notamment le 14 juillet dernier après le grand meeting organisé par En Marche à la Mutualité à Paris, mais il ne l'avait pas sanctionné. François Hollande pensait pouvoir le gérer et ne voulait pas lui offrir la possibilité de se victimiser s'il était forcé à la démission. Au bout du compte, Emmanuel Macron est quand même parti à un moment qu'il a choisi, en pleine rentrée politique, une rentrée lors de laquelle François Hollande espérait sortir des querelles internes pour se consacrer au combat contre la droite. Grâce à Emmanuel Macron, c'est raté. Une opération perdant-perdant pour le chef de l'État.
Construire un islam de France, c'est avec cet objectif que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a consulté lundi des représentants de la communauté musulmane, de la société civile et des parlementaires. À l'issue d'un été endeuillé par plusieurs attentats en France et marqué par la polémique autour du burkini, le ministre chargé des cultes a appelé de ses vœux une relation forte et apaisée avec les musulmans de France. Un reportage de Pierre-Olivier.
En 2005, la Fondation pour l'Islam de France avait très vite sombré. En cause, des luttes de pouvoir pour imposer une vision de l'islam plus qu'une autre, ou encore des réseaux de financement différents et cloisonnés. Mais le président du Conseil français du culte musulman, Anouar Bibesh, l'affirme, tout cela est désormais terminé.
Aujourd'hui, plus de 10 ans après, il y a une maturité qui s'est opérée. Nous avons appris à nous connaître, à nous reconnaître, à travailler ensemble, à mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans ou particuliers. Et donc, il y a aujourd'hui une volonté de travailler tous ensemble, main dans la main.
11 ans après l'échec de la première Fondation pour l'Islam de France, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est aussi ministre des cultes, veut croire que le contexte actuel facilitera l'entente entre communautés musulmanes.
Il arrive à certaines étapes de l'histoire d'un pays que la nécessité historique rende possible ce qui jusqu'à présent ne l'avait pas été. Et nous avons besoin d'un islam les deux pieds dans la République qui, à partir de la République, parle à tous les musulmans de France pour dire que l'appartenance à la République est première. C'est la raison pour laquelle je suis plus optimiste.
Cependant, plusieurs voix s'élèvent déjà, comme celle de Siem Zine, la présidente de l'association Action Droit Musulman, pour critiquer cette nouvelle fondation dirigée, je cite, par des élites de salon.
La crise du lait s'est achevée cette semaine avec un accord entre le numéro 1 mondial, Lactalis, et les producteurs français. Le prix du lait va augmenter de 5 euros chaque mois pour atteindre 300 euros la tonne, contre 257 aujourd'hui. C'est loin du souhait des producteurs de lait, mais beaucoup plus que l'industriel ne voulait concéder au départ. Et puis l'Olympique de Marseille passe sous pavillon américain. La vente du club de football, fleuron du sport hexagonal, est actuellement propriété de Margarita Louis-Dreyfus, présidente du groupe industriel et financier éponyme, est entrée dans sa dernière phase. Stéphane Burgat à Marseille.
Tout le monde est à nouveau pris de court. Margarita Louis-Dreyfus a lancé un processus long. La voilà en discussion exclusive. La dernière ligne droite. Le futur actionnaire majoritaire est nommé Frank McCourt, un Américain de 63 ans, originaire de Boston, ancien patron du club de baseball des Los Angeles Dodgers. Il a pour ambition de réveiller un géant endormi, nom de code de son programme, le projet OM Champion. Tout simplement, le comité d'entreprise de l'Olympique de Marseille doit se réunir. Le délai devrait être de plusieurs semaines. La période de mercato sera donc terminée à ce moment-là et l'OM ne pourra pas se renforcer avant la période de transfert de fin d'année pour répondre aux ambitions de son futur nouveau patron. Les supporters, pas forcément au fait du monde du baseball, découvrent tout juste son pédigré et il n'est pas des plus rassurants pour eux car sous son règne, les Dodgers n'ont jamais atteint les World Series tant désirées et connu même quelques saisons des plus laborieuses.
Il reste sans doute aux supporters à prier. David Vauclair, un islam de France, parlons plutôt de cela, à la française ou républicain, les qualificatifs ne manquent pas. Est-ce, selon vous, la bonne voie pour que les membres de cette communauté culturelle et religieuse soient mieux intégrés à la nation ?
Je pense que c'est une question très compliquée parce qu'on a tendance à essentialiser les gens sur une religion. Or, la majorité des musulmans, comme la majorité des chrétiens, ne se voient pas d'abord et avant tout comme musulmans et chrétiens. Il y a, si vous voulez, pas forcément de question de loyauté entre l'État et la mosquée ou entre l'État et l'Église. La grosse difficulté aussi, c'est de voir les musulmans comme un groupe unique, homogène. Or, ce groupe est très hétérogène et donc l'un des problèmes majeurs auxquels va être confronté M. Chevènement, si c'est toujours lui qui dirige cette nouvelle institution, sera le fait de savoir à qui parler. Puisque, bien évidemment, quand on regarde la majorité des musulmans en France, ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas particulièrement dans les dirigeants des groupements qui représentent les musulmans en France, parce que tout simplement, ça ne les intéresse pas. En fait, comme la quasi-totalité des Français, ils n'appartiennent pas à un groupe militant, et ni même d'ailleurs à une association. Donc, à partir de ce moment-là, ça entraîne de grosses complications. Mais on peut comprendre, de la part des politiques et de la société civile dans son ensemble, une volonté d'essayer d'avancer et puis de trouver finalement quelque chose qui permette à chacun de vivre sa foi de manière apaisée et en même temps de vivre avec les différences de l'autre, parce que l'islam, depuis maintenant longtemps, est français.
Sept jours en Afrique. Avec l'élection présidentielle au Gabon et dès lundi, le challenger Jean Ping annonçait sa victoire, preuve à l'appui. Écoutez.
Je crois qu'il soit fair play, qu'il accepte les résultats des urnes et qu'il me téléphone pour me féliciter. Pourquoi ont-ils commencé par dire nous avons gagné ? Parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Il fallait rectifier les choses. Ma déclaration est claire. Je suis l'élu. Je suis l'élu. Maintenant, le fait de devenir président, il y a quand même une procédure. Une fois que vous êtes élu, on vous appelle le président élu aux États-Unis. La passation des services, la prise du pouvoir, c'est la prise de possession des bureaux, est une autre histoire. Nous avons les procès-verbaux. Ça ne peut être que des résultats crédibles. Tout ce que nous indiquons là, nous sommes en possession des procès-verbaux. Ce n'est pas une pression, c'est un fait. Maintenant, je crois qu'il faut reconnaître les faits.
Et le surlendemain tombe le verdict des urnes, ou du moins celui annoncé par la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. Le chef de l'État sortant l'emporte avec 49,8% des voix contre 48,23% à son rival. À peine 6000 voix séparent les deux candidats. Ali Bongo est donc réélu président du Gabon. Sitôt la victoire de ce dernier annoncée, des affrontements éclatent à Libreville et à Port-Gentil. Le bâtiment de l'Assemblée nationale est incendié, le QG de Jean Ping attaqué. Alain-Claude Billy Binze, porte-parole du gouvernement, était l'invité de RFI jeudi matin.
J'aimerais dire que nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait de l'apaisement, parce que le Gabon n'est pas une dictature, le Gabon est une démocratie avec des lois. S'il y a une contestation des résultats, il y a un contentieux qui peut être ouvert auprès de la Cour constitutionnelle. Pour ceux qui veulent le recomptage des voix, c'est auprès de la Cour que cela peut se faire. Il s'agit là de la mise en œuvre d'un plan qui a été préparé par M. Jean-Ping et annoncé de longue date. Il avait indiqué qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats et qu'il appellerait les Gabonais à descendre dans la rue. C'est exactement ce qu'il a fait. Ce sont des suspects qui ont été arrêtés cette nuit. On parle d'incendie de l'Assemblée nationale, c'est quand même un symbole important pour un pays. Et cette assemblée ne siégeait pas, elle était en vacances. Ensuite, il y a eu tentative de prendre d'assaut d'autres symboles, mais en même temps, ils ont saccagé des chaînes de magasins, pillé et volé. C'est cela qui s'est produit cette nuit. Et lorsqu'il en est ainsi, le gouvernement a la responsabilité de protéger les biens et les personnes.
Une journée de jeudi particulièrement violente et cette situation promet de rester tendue aussi bien à Libreville que dans le reste du Gabon. La communauté internationale, elle, demande plus de transparence et une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. À Paris, la position française est beaucoup moins bienveillante à l'égard d'Ali Bongo que lors de la précédente élection en 2009. Revue des réactions françaises avec Pierre Firsion.
Dans un communiqué, le président français a appelé jeudi toutes les parties à la retenue et à l'apaisement. Au lendemain d'une nuit d'émeute, François Hollande a condamné avec la plus grande fermeté les violences et les pillages ainsi que les menaces et les attaques portées contre les partisans des principaux candidats, une manière de dénoncer la prise d'assaut du QG de Jean-Ping par les forces de sécurité et l'arrestation de plusieurs leaders de l'opposition. Pour que la situation s'apaise, François Hollande demande de la transparence sur les résultats du scrutin, car il y a un doute sur leur sincérité, a estimé jeudi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. En cause notamment les résultats dans le Haut-Ogooué, fief familial d'Ali Bongo, où ce dernier aurait obtenu plus de 95% des voix pour plus de 99% de participation. Des chiffres qui ont fait sursauter à droite comme à gauche. Du coup, l'Élysée, le Parti socialiste ainsi que certaines figures de l'opposition, comme Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite, appellent à un recomptage des voix et à la publication des résultats bureau par bureau. Une issue inéluctable pour Bernard Debré. Pour sortir de la crise, je ne vois pas d'autre solution, juge ce député Les Républicains, membre du groupe d'amitié France-Gabon.
David Vauclair, rester au pouvoir le plus longtemps possible et par tous les moyens, c'est une constante en Afrique.
Apparemment, oui. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment rebondir là-dessus, si ce n'est que de dire souvent, c'était Tocqueville qui disait qu'il y a deux forces qui peuvent mobiliser totalement les individus, la religion et le nationalisme. Et donc, à partir de là, on se rend compte que les gens qui veulent rester au pouvoir vont utiliser l'un ou l'un et l'autre.
Là, en l'occurrence, c'est plutôt le nationalisme, ou en tout cas le partisanisme, si on peut dire.
Tout à fait, puisque derrière, même si je suis certain que tant chez M. Bongo que chez M. Ping, on se retrouve dans chaque camp avec une volonté de servir le Gabon, derrière il y a des réalités ethniques et des différences sociales qui vont expliquer les raisons pour lesquelles chacun va défendre l'un plutôt que l'autre.
RFI. En République démocratique du Congo, le dialogue national a commencé jeudi, mais la cérémonie officielle a été entachée par l'absence de poids lourds de l'opposition, ceux de l'UDPS, du G7, de Dynamique et du MLC. Ils réclament toujours la libération des prisonniers politiques, la libéralisation des médias proches de certains partis, ainsi que le changement de facilitateur. Cependant, la majorité ne désespère pas de voir l'UDPS rejoindre le processus. C'est en tout cas ce que souhaite le sénateur Léonard Tshéokitundu.
Nous voulons effectivement engager un débat sérieux sur la meilleure manière possible d'organiser les élections qui soient crédibles, apaisées et conformes aux standards internationaux. C'est ce que tout le monde attend pour régler la question de la légitimité qui effectivement bat de l'air dans notre pays depuis un certain temps. Nous pensons qu'il n'est pas encore trop tard et il est encore possible pour l'UDPS de revenir aux bons sentiments et rejoindre tous les autres participants autour de la table pour que nous abordions cette étape importante qui consiste à ce que finalement on élabore un processus électoral qui soit vraiment clair et qui puisse permettre à notre population de se déterminer de la manière la plus claire possible afin que la vérité des urnes confère la légitimité au prochain gouvernant et assure la stabilité institutionnelle.
Par ailleurs, le nonce apostolique et le patron de la MONUSCO ont visité en début de semaine le lieu du massacre de Rwangoma. C'était le 13 août à Beni. Deux jours après, à l'occasion de la fête chrétienne de l'Assomption, le pape François avait dénoncé le silence honteux autour de ces tueries qui avaient coûté la vie à une cinquantaine de personnes. Sonia Rollet, reportage.
Excellence, c'est dans le champ ici que nous avions trouvé plus ou moins 10 corps.
Une visite à pied pour se rendre compte, mais aussi pour prier sur les lieux mêmes du drame.
Amen.
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, qu'ils reposent dans la paix.
Amen. Amen.
Pour le patron de la MONUSCO, Maman Sidikou, il faut mettre fin au décompte macabre.
Il est évident que pour la MONUSCO, les discours, la compassion, tout cela ne suffit plus. Il est évident qu'il faudra, avec les FRDC, arrêter une stratégie différente. Parce que nous comptons les morts les uns après les autres et ça ne peut plus continuer.
Explosion de joie, la plus vieille paroisse du territoire de Béni. Le nonce apostolique est venu pour transmettre un message de compassion de la part du pape François et expliquer le but de sa visite avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC.
Nous voulons voir concrètement comment faire mieux le travail de protection de la population.
Ne pas désespérer, ne surtout pas céder à la violence, croire en l'espoir d'un avenir meilleur avec le concours de tous, c'est le message du représentant du pape François à la population de Béni.
En Tunisie, le gouvernement d'union nationale a pris ses fonctions lundi pour un premier conseil des ministres mercredi. Une équipe qui reste sous surveillance, vous allez l'entendre, et dont la feuille de route comporte un volet urgent, le redressement de l'économie. Jeanne Bergaoui à Tunis.
Pour relancer la production et faciliter l'investissement, Youssef Chahed propose un état d'urgence économique. Une priorité qui fait consensus, explique Souhaïl Alouini, député du parti Mashroua Tounes, qui soutient ce gouvernement d'union nationale sans y participer.
Actuellement, la Tunisie est dans une position difficile. Tout ce qui est fiscalité n'est pas rétribué comme il faut au niveau de l'État. Donc il faut d'abord remettre un petit peu tout le système de la fiscalité en Tunisie à l'œuvre. Il ne faut pas oublier que nous avons plus de 50% du marché parallèle dont l'État ne touche absolument rien.
Aujourd'hui, tous les indicateurs économiques sont dans le rouge. Une croissance atone à peine 1%, un chômage autour de 15%. Le chef du gouvernement brandit la menace de l'austérité et évoque même la possibilité de licencier des milliers de fonctionnaires. Une annonce qui inquiète Merzia Labidi, membre du Parti démocrate musulman Ennahda.
Il a parlé peut-être d'un licenciement, de plans sociaux dans le secteur public. Et je crains que ça va faire crisper vraiment l'ambiance sociale. Donc on attend au tournant. C'est notre rôle de parlementaire.
Ennahda appelle à la tenue rapide d'une session plénière extraordinaire pour accélérer l'adoption de certains projets de loi, dont le très attendu code sur l'investissement.
David Vauclair, parlons de votre livre « Judaïsme, christianisme, islam, points communs et divergences ». Alors nous avons la place d'Abraham dans les trois religions. Nous avons exploré aussi dans la première partie ce qui se passe dans la sphère privée. La troisième partie du livre est consacrée à la sphère publique, c'est logique. La politique, par exemple, c'est peut-être dans ce domaine que les trois religions paraissent les plus dissemblables. Est-ce votre avis ?
Oui, tout à fait. On peut voir une différence importante parce que le judaïsme va se séparer du christianisme et de l'islam. D'une part, parce que le christianisme et l'islam se verront comme des religions universelles et prosélytes, alors que le judaïsme, non. Et d'autre part, parce que, à l'exception notable d'Israël à partir de 1948, le judaïsme sera la majorité du temps, voire toujours, un peuple minoritaire à l'intérieur donc d'une communauté majoritaire qui ne partage pas ses croyances. Donc forcément, la manière de considérer la foi, le rôle du croyant et le rôle de la religion vont évoluer grandement pour le premier des trois grands monothéismes.
Pourtant, on parle à propos de l'islam d'un islam politique.
Alors on parle effectivement d'un islam politique, mais on peut voir finalement que il y a beaucoup de confusion, puisque au niveau historique, on se rend compte que très rapidement au sein de l'islam va se dégager donc une politique qui ne s'appuie pas particulièrement sur le pouvoir de l'islam lui-même chez les Abbassides et ensuite dans l'intégralité de l'histoire du monde islamique, eh bien, ou musulman si vous voulez, on verra que le sultan peut décider en tant que sultan avec des raisons qui sont des raisons essentiellement politiques. Et aujourd'hui, on peut voir aussi que justement le politique va avoir tendance à primer sur le religieux. Prenons un exemple important, l'exemple iranien, où au moment où l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir, il va demander aux Iraniens de ne pas se rendre en Arabie Saoudite pour faire le Hajj. Et ça correspond finalement à quelque chose d'assez étonnant dans une théocratie, puisque je vous rappelle qu'un des 5 piliers majeurs de l'islam, c'est le pèlerinage. Donc, interdire le pèlerinage apparaît comme contre-intuitif, mettons. Et puis, derrière, l'explication, c'est qu'évidemment, le grand ennemi régional, géopolitiquement, de l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite. Et offrir des millions d'Iraniens et les mettre sous la coupe du dirigeant de la police saoudienne, c'était quelque chose qui était inacceptable pour Khomeini. Et donc là, à ce niveau-là, vous voyez une forme d'accommodement qui a lieu. Remarquez d'ailleurs que cette année, avec les accidents qui ont eu lieu pendant le Hajj, le gouvernement iranien a à nouveau appelé les gens à ne pas aller faire le pèlerinage cette année.
Vous voulez dire qu'il y a collusion, si on peut dire, ou en tout cas convergence de vues entre religion et politique lorsque les deux sont finalement au pouvoir dans un même territoire ?
Le politique a toujours une nécessité de tirer sa légitimité de quelque chose. Alors, soit tire sa légitimité de la force, mais l'inconvénient est qu'à un moment, on devient faible, ou bien alors de la représentation du plus grand nombre dans un système démocratique ou représentation ethnique ou culturelle, ce que vous voulez. Ajouter à cette légitimité une forme de sacralité, eh bien, c'est quelque chose qui apparaît fondamental pour le politique et c'est pour cela qu'il aura tendance à être tenté de se rapprocher du religieux si celui-ci reste à sa place. Le religieux, lui, en l'occurrence, a tout intérêt à se rapprocher du politique puisque ça lui permet la plupart du temps de faire avancer sa cause, son prosélytisme et puis sa manière de concevoir la société, donc ses dogmes et notamment ses dogmes sociaux. Et on remarque le plus souvent quand on parle justement système religieux, que la plupart du temps, c'est la sphère privée qui va être la plus sous la coupe des religieux, parce que la sphère publique, elle, a plutôt tendance pragmatiquement à obéir à des règles, disons, beaucoup plus séculières.
Alors, David Vauclair, on a beaucoup dit que les religions poussaient à la guerre. Vous posez d'ailleurs cette question dans la quatrième partie de l'ouvrage. Est-ce le cas, selon vous ?
Oui et non. C'est-à-dire qu'on peut trouver à l'intérieur des religions et des textes et des grands textes religieux la possibilité d'entrer en guerre et de se battre à la fois pour sa foi et la manière de considérer le monde et pour son Dieu. Mais parallèlement, il faut remarquer que dans les trois religions dont nous parlons, l'histoire et la multitude de gens qui ont réfléchi à partir de ces textes ont atténué la violence de ces textes le plus possible et de toutes les manières possibles qu'ils ont pu trouver. Donc en conséquence, on trouvera à l'intérieur des religions, au contraire, une volonté d'harmonie plus forte historiquement et culturellement qu'une volonté d'agression. Cela étant dit, on trouvera malgré tout dans chacun des textes la possibilité de soutenir une action agressive si c'était nécessaire.
Mais est-ce que le terrorisme est directement condamné par les trois religions ?
C'est une question compliquée puisque le terroriste, par définition, est un terme qui va être utilisé pour dénoncer des gens avec lesquels on est en désaccord. Les gens qui sont terroristes ne se voient pas comme terroristes. Dans les religions, les terroristes trouveront légitimement de quoi donc poursuivre leur action. Mais c'est un message qui est un message extraordinairement minoritaire. Je crois que nous serons tous d'accord pour dire que le Ku Klux Klan ne représente pas le protestantisme ou même le christianisme dans son ensemble. Mais pourtant, on trouvera à l'intérieur du Ku Klux Klan et des textes, la manière dont ils sont utilisés ou trahis, si vous voulez, on trouvera malgré tout de quoi faire cette organisation qui malheureusement existe encore aux États-Unis. Si on regarde à l'intérieur des textes, on peut trouver finalement de quoi soutenir son message, mais le cœur, si vous voulez, l'âme du message ne semble pas aller dans cette direction-là.
Et l'humour ?
Alors l'humour, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour les religions, puisque ça va à l'encontre de toute sacralité. Et une plaisanterie a tendance à justement détruire le respect qu'on peut avoir pour notamment un dieu ou bien les serviteurs de celui-ci. Donc en conséquence, les religions vont en fait la plupart du temps plutôt manquer d'humour. Cela étant dit, elles ne sont pas contre la bonne humeur et vont avoir plutôt tendance à soutenir une idée de plaisanterie juste, c'est-à-dire de rire avec les gens plutôt que contre. Donc la moquerie est déconsidérée dans toutes les religions, voire condamnée, alors que la plaisanterie ou le rire peut être au contraire plutôt mise en avant.
Encore que les Juifs, par exemple, rient beaucoup d'eux-mêmes.
Tout à fait, tout à fait. Mais à nouveau, c'est une exception par rapport au christianisme et à l'islam parce que ils se retrouvent dans une position qui est une position minoritaire. On remarquera aussi, en fait, que les voies les plus mystiques ou les plus spirituelles dans les trois religions vont aussi avoir tendance à mettre en avant le rire comme une possibilité de libération et comme une possibilité, finalement, de s'approcher du divin. Mais pour ce qui est des plus orthodoxes, si vous voulez, et qui seront plus pragmatiques et plus terre-à-terre, le rire n'est pas souvent bien vu, en particulier s'il s'applique aux dogmes qu'on est censé suivre.
Et notamment à Mahomet.
Alors que ce soit à Mahomet, même si après, derrière, selon les textes, il était le plus rieur des hommes, il est évident que la sacralité que l'on va donner au personnage, au prophète de l'islam, eh bien, va entraîner le fait qu'on ne se moquera pas de lui comme on ne se moquera pas finalement d'un membre de sa famille. Et c'est justement cette idée-là qui sera dénoncée. Cela dit, c'est à l'intérieur même de la communauté. Mahomet lui-même ne voyait pas particulièrement d'inconvénient à ce que des gens qui ne fassent pas partie de la communauté se moquent ou pas de lui puisqu'il n'avait pas d'importance.
Merci David Vauclair, professeur et spécialiste de géopolitique et d'histoire contemporaine, auteur de « Judaïsme, christianisme, islam ». C'est publié chez l'éditeur Erol. Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page « Une semaine d'actualité » sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Urgence.